C'est donc la troisième séance des travaux de ce colloque. J'ai quelques scrupules à présider vos travaux, puisque je ne suis qu'un humble lecteur de Zola et pas du tout un spécialiste comme vous. Et pourtant, quand M. le Duc Hadine m'a proposé de présider cette séance, je n'ai pas refusé, tout en lui disant quand même que « Seigneur, je ne suis pas digne ». Mais je n'ai pas refusé d'abord parce que j'ai été flatté, et aussi par amitié pour votre association, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur l'iconographie zolienne et la banque d'images que vous constituez, qui est tout à fait remarquable, et puis aussi par respect pour le maître, que, comme vous, je vénère. Ce que, personnellement, bon, n'étant pas spécialiste de Zola, mais plutôt de l'image, ce que j'admire dans Zola, critique d'art, ce n'est pas tellement qu'il ait découvert Manet ou découvert Cézanne. Ça, au fond, ça me paraît naturel, dans la mesure où c'est un phénomène dont on peut rendre compte facilement, que les peintres qui sont aujourd'hui les plus prisés aient été défendus par les écrivains qui sont aujourd'hui les plus prisés. C'est un phénomène de réception. Les valeurs qu'ils incarnaient les uns et les autres et qui leur étaient communes ont triomphé. Il est donc tout à fait normal de les voir aujourd'hui liés par la même gloire, et cela ne me surprend pas du tout. En revanche, je suis toujours étonné et passionné quand je lis les critiques d'art de Zola par sa prescience, je dirais presque méthodologique, pour encore des historiens de l'art actuels, soutenant des thèses qui aujourd'hui encore sentent le soufre, lorsqu'il affirme tranquillement que l'art est une sécrétion humaine. Je ne suis pas sûr que si nous en discutions, nous soyons tous d'accord sur ce point. En tout cas, beaucoup d'historiens de l'art, je peux vous l'affirmer, seraient encore violemment choqués. De même, lorsqu'il fait le lien très fortement entre la production artistique de son temps et le marché de l'art, ce sont des propositions qui aujourd'hui nous ont été rendues familières par la sociologie de l'art, mais qui sont loin d'être partagées par les historiens de l'art encore aujourd'hui, d'autant que Zola va assez loin dans ce domaine. Il fait une liaison très forte en rappelant sans cesse l'ascension de la bourgeoisie et ses raisons, l'influence qu'elle a sur le format des tableaux, sur le genre des tableaux. Il ne va pas jusqu'à expliquer le style impressionniste ou le style de Manet par les goûts de la bourgeoisie comme on le fait aujourd'hui, mais c'est vraiment le début de cette méthode qui, quant à moi, a ma préférence et dans laquelle j'ai, pour l'impressionnisme, essayé d'œuvrer en trouvant chez Zola vraiment un précurseur tout à fait d'actualité. Mais bon, ce n'est pas à moi de faire une communication, heureusement pour moi, heureusement pour vous. Et simplement, je voulais vous dire que c'est avec un très grand intérêt, plus que de l'intérêt, avec de la conviction, que je vais écouter et essayer de présider cette matinée. Et je passe donc tout de suite la parole à M. Fernandez Zoila pour la première communication de la matinée. Monsieur Fernandez Zoila, je vous remercie et je vous passe la parole.
Oui, je vous prie de m'excuser. Je voudrais simplement vous annoncer et vous demander cet après-midi de venir à partir de 14h15 plutôt que 14h30, parce que il y a quelque chose de prévu pour certains à partir ce soir vers 18h. Bon, et d'autre part, comme ça, nous aurons surtout plus de temps pour écouter les communications. Ce matin, il y aura une toute petite modification. Béatrice Laurent, qui normalement devrait parler cet après-midi, accepte de parler ce matin, de présenter sa communication ce matin. Bon, et cet après-midi, Jean-Max Gueux, qui devait parler à Médan, présentera sa communication cet après-midi. Voilà. Merci.
Je suis un peu confus de parler devant cette assemblée. Et il faut tout de même que je me présente comme étant médecin, étant psychiatre, étant surtout psychopathologue, et m'informant dans les ouvrages de Zola, c'est-à-dire que je suis un amateur, n'est-ce pas, et que je n'ai pas l'intention de faire une lecture, disons, de philosophie littéraire ou d'études littéraires. Bon, je ne peux pas citer, j'ai essayé de lire le plus de choses possibles sur l'œuvre, j'ai déjà commis un texte qui est paru dans les cahiers naturalistes en 86, Et je ne peux pas citer tous les personnes, enfin tous les textes que j'ai lus. Cependant, je voudrais remercier Henri Mitterrand. Je sais qu'il n'est pas là, mais ça n'a pas d'importance. Pour d'abord son appareil critique de la Pléiade et surtout pour les nouvelles appareils critiques de Folio qu'il a bien voulu m'adresser, et aussi pour avoir fait précéder cette réédition d'une préface tout à fait pertinente de Bruno Foucart. Je tiens aussi à remercier Colette Becker qui m'a fait lire cette splendide conférence qu'elle a faite en 88 au musée d'Orsay sur à la fois Cézanne et à la fois Claude Lantier. Bon, ceci dit, comme le temps est limité, je ne peux pas vous lire tout ce que j'ai écrit. Je ne peux pas en particulier citer trop d'exergues, ce qui est un peu ma manie dans mes articles pour séparer au point de vue de l'impression les diverses parties. Mais je tiens à citer un exergue de Ignaz Meyerson, qui fut mon maître, et dire en même temps que c'est la méthodologie que je suivrai, c'est-à-dire que nous irons des œuvres, ici de l'œuvre, au fonctionnement psychologique qu'on y trouve, aussi bien dans le domaine de l'humain, c'est-à-dire autour du personnage central de Claude Lantier, peindre, que dans le domaine enfin, de la création, en essayant de séparer la création de la peinture écrite dans le texte, c'est-à-dire une sorte de construction en abîme, il ne s'agit pas de la peinture réelle à mon sens, et d'autre part de l'écriture elle-même. Alors, cette citation d'Ignaz Meyerson va paraître dans un ouvrage qui s'appelle « Forme, couleur, mouvement dans les arts plastiques » qui va paraître aux éditions Adam Biraud au début 91. Et j'en profite pour saluer ici Claire Bresson, artiste peintre, qui fut la compagne de Meyerson et qui œuvre sans arrêt pour faire connaître ses textes et les faire publier. Alors, Meyerson dit en 1964, « Un peintre ne découvre pas ses formes comme des entités préalables qui étaient là, mais cachées. Il travaille, construit, modifie incessamment plus ou moins ses formes, crée de nouvelles formes. La forme du peintre est formation, activité de formation, au début, pendant le dessin, pendant l'esquisse, ensuite, pendant tout le travail du tableau. » Eh bien, je crois que l'observation, je viens de faire une sorte d'anticipation de Claude Lantier, va nous permettre d'essayer de retrouver cette sorte de travail du peintre. Oui, l'œuvre, c'est connu, ouvre une vaste problématique de la création artistique en peinture et en littérature et en écriture. C'est sans doute le roman qui est le plus habité par l'auteur, par Zola. Il est omniprésent, n'est-ce pas ? Non seulement dans les situations, dans les personnages secondaires, non seulement il va nous faire passer énormément de souvenirs de sa vie personnelle, de celle de ses amis, et tout ceci est très connu, et en plus, ses points de vue, comme vient de nous être rappelé, je dirai un mot là-dessus tout à l'heure. Mais il s'incarne, c'est le mot, simultanément dans les deux personnages importants de ce roman, à savoir Claude Lantier et Pierre Sandoz. Seulement, voilà, Claude Lantier est programmé. Il a des marqueurs génétiques, puisque très tôt, dans le ventre de Paris, il apparaît déjà, il s'adonne à la peinture. Nous savons qu'il s'agit d'une hérédité, d'une névrose se tournant en génie. Et alors, toute la prouesse de Zola va être, et c'est là, à mon sens, le premier exercice d'écriture, c'est comment va-t-il habiller cette tare, cette névrose, comme on disait à l'époque, et qu'est-ce qui va se passer, comment il va nous présenter ce personnage. Et au fond, je trouve que s'il y a dans les romans de Zola un véritable musée des maladies mentales, ici, dans l'œuvre, il réussit pleinement à nous donner une observation, je le dis tout de suite, des psychoses maniaco-dépressives. Évidemment, je traite Claude Lantier comme un personnage vrai, entier, de roman, et je laisse de côté toutes les anecdotes, toutes les ressemblances, toutes les similitudes qui ne me concernent pas, ne m'intéressent pas, n'est-ce pas ? Je trouve qu'on a perdu trop de temps à vouloir trouver, enfin, je ne critique personne, mais plutôt quelques textes, enfin, qui usent de cela pour noircir le travail de Zola. Et ceci, je ne pense pas que ce soit justifié pour ce roman. Bon, alors, Claude Lantier sera donc maniaco-dépressif. Alors, il faut que je démontre cela. Et pour ce faire, je vais essayer de vous présenter l'observation de Claude Lantier de façon très schématique, très rapide, mais en essayant de réunir les indicateurs cliniques, n'est-ce pas ? Car Zola est un fin clinicien, qui permettent de penser Claude Lantier, enfin de le saisir dans cette double perspective maniaco-dépressive. Zola parvient, je vous le dis tout de suite, à nous offrir, avec une finesse phénoménologique rare, une observation qu'il n'a pas pu lire dans les ouvrages de l'époque. Bien sûr, Grissinger avait décrit vers 1845 la maniaco-dépressive, enfin, ou des psychoses de ce type, Falleret en 54, Baillarger, Magnan reprend tout cela. Il est possible qu'il ait lu surtout l'ouvrage de Magnan, surtout pour l'Assommoir, mais les observations telles qu'il nous les présente sont très actuelles, c'est très actuel, c'est de 1990. Bon, alors ces indicateurs, je les ai groupés sur 5 rubriques, n'est-ce pas ? Il y a d'abord les marqueurs génétiques. Zola est à la fois précis et imprécis, mais nous ne le sommes pas davantage aujourd'hui, nous, précis. Il nous dira, est-ce une lésion à l'œil ? Est-ce les mains ? Est-ce une lésion à la page 53 dans l'édition de la Pléiade ? À la fin, au cimetière, lorsqu'on enterre Claude, il dira à bon grand, oui, il y a eu 3 grammes de trop, 3 grammes en moins, n'est-ce pas, de la tare familiale. Mais tout ceci reste imprécis, seulement il se trouve qu'aujourd'hui, nous repensons ces psychoses comme étant aussi soumises à des prédéterminations génétiques. Mais la modernité de Zola va plus loin, puisqu'il dira, ce n'est pas... L'époque aussi a fait qu'il évolue ainsi. Autrement dit, il admet toute une série de causalités possibles qui sont liées aux relations. Hein. Et je voudrais dire tout de suite que cette observation de Claude Lantier, il ne faudrait pas la réduire uniquement avec la peinture, n'est-ce pas ? Ce n'est pas uniquement les relations avec la peinture. Mais il y aura des relations avec celle qui deviendra sa femme, Christine, avec l'enfant qui est Jacques, lui voilà, une hydrocéphale aussi prévue et déficitaire, et d'autre part, avec les membres de la bande à Sandoz, si on peut dire ainsi, les jurys des salons, les peintres qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, etc. Autrement dit, il y a toute une quantité de relations qui sont étudiés assez finement dans cet ouvrage, avec, à mon sens, un art de la psychologie qui est très loin de ce que les contemporains et quelques autres ont pu dire de Zola. Tout dépend de ce qu'on entend dans ce travail qu'il nous présente par une personnalité, par la notion d'individu et enfin surtout la notion de personne dans la création. J'y reviens. Alors, je voudrais d'abord lever cette hypothèque, n'est-ce pas ? Parce qu'il est évident que il a été dit, Claude Lantier n'est pas fou, Claude Lantier n'a pas eu de crise de folie. Bon, hier, on nous a parlé de notre chaotique, je reviendrai, c'est très intéressant et très important. Alors, il faut bien savoir que dans la psychopathologie actuelle, nous distinguons 2 grandes parties, n'est-ce pas ? Une psychopathologie déficitaire qui concerne les arriérations et les démences. Alors là, c'est vrai, Claude Lantier n'est pas dément. Il est une erreur grossière de penser qu'un fou perd la raison. Non, et un fou crée malgré ses souffrances. La psychopathologie productive, qui est celle qui nous intéresse ici, qui concerne le groupe des schizophrénies, des délires chroniques, des psychoses maniaco-dépressives, et aussi des maladies névroses, c'est-à-dire les fameuses hystéries, névroses obsessionnelles, névroses phobiques, ou névrosthénies, ou névroses d'angoisse. Freud même le dira vers 1926. Il admet cette griffe, n'est-ce pas, génétique. Eh bien, c'est dans ce cadre donc, d'une psychopathologie productive qui va se caractériser par 2 séries de faits. D'une part, des souffrances, mais d'autre part, des originalités, n'est-ce pas ? Et, bon, alors, à côté de ces premiers groupes des marqueurs génétiques, Nous en avons un deuxième d'une série d'indicateurs qui concerne le caractère de Claude Lantier. Et ça, nous le connaissons à partir du premier chapitre, en gros. Nous savons que c'est un garçon timide, renfermé, sauvage, qu'il a d'énormes difficultés avec les femmes, qu'il y a des pulsions violentes qui sont en lui. Zola le dit tel quel en 1885. Il n'est pas besoin de faire recours ici à une psychanalyse quelconque pour le rendre évident. L'interprétation est superflue, n'est-ce pas ? Cette sensualité de Claude Lantier, Zola nous la donne, et en même temps, j'ai signalé cela dans mon test de 86, il apparaît des indices de dispersion. C'est-à-dire qu'à chaque, très souvent, lorsqu'il essaie, on nous le raconte comment il essaie de peindre, la toile lui échappe, il est mécontent de lui, rentre dans des colères, il va avoir des véritables rages où il veut crever avec son poing, avec un couteau, sa toile ou ses toiles. C'est arrivé à plusieurs reprises, n'est-ce pas ? C'est Zola qui le décide ainsi, enfin l'auteur. Et que ce soit le narrateur, que ce soit l'œil de Christine, que ce soit l'œil des autres comparses, enfin des autres personnages secondaires, nous aurons mille aperçus sur ce fond caractériel de Claude Lantier et des oscillations cyclotimiques. Il y a des oscillations cyclotimiques. Tantôt, il est extrêmement enjoué. Il passe dans un imaginaire très fort. Non seulement il a créé des bons tableaux, il est reconnu comme le chef d'une école. Le Chêne, Mahoudeau, Gagnère, enfin, tous ces peintres qui sont moins doués le considèrent comme quelqu'un d'extrêmement important, ou même Fagerolles. Puis des gens comme Courageaux Corot ou bien Bongrand l'estiment aussi. Mais il déplore évidemment cette sorte de fond caractériel. Et là, il s'installe, Christine arrive, c'est un peu comme les dieux lui donnaient cette femme. On va assister à deux années de relatif bonheur où il ne peint pas. Et puis, il revient à la peinture et de nouveau, nous allons entrer dans une espèce d'enchaînement assez féroce, enfin, qui va aboutir au raptus suicidaire. Alors ici, trois séries d'indicateurs à retenir. Bon, des indicateurs dépressifs. Ceux-là sont évidents, je ne veux pas m'insister là-dessus beaucoup. Il est souvent en proie des faces, des inhibitions. On le traite de paresseux, dira Sandoz à la fin à Bongrand. Il n'était pas paresseux, il s'acharnait au contraire sur ses toiles, il travaillait sans arrêt. Mais il y avait des périodes où il était totalement découragé, avec cette sorte d'inhibition sans possibilité de passer à l'acte, autrement dit une sorte d'apragmatisme qui est tellement typique des inhibitions mélancoliques. Ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, ce sont les indicateurs maniaques. Bon, alors, qu'est-ce qu'on entend par manie ? Il faut peut-être le dire aussi. C'est, on a dit, une excitation thymique, une excitation de l'humeur. En effet, nous allons trouver des phases d'exubérance, d'exaltation, des phases de débordement, une espèce d'oubris, n'est-ce pas, très, très fréquente. Mais en réalité, aujourd'hui, si nous ne sommes pas plus avancés sur le plan génétique, nous admettons de plus en plus qu'il y a des perturbations autour du chromosome 10, enfin passons, mais nous savons que ce qui est perturbé, ce ne sont pas des lésions organiques, mais c'est les métabolismes eux-mêmes intraneuronaux, intracellulaires et interneuronaux. Et ces métabolismes sont perturbés dans quoi ? Dans leur vitesse. Et ce qui arrive dans la manie, c'est une accélération de la vitesse des processus, c'est une anticipation, une fuite des idées, une fuite des images, et la difficulté pour les sujets de maîtriser le tempo de cette vitesse, n'est-ce pas ? Nous sommes là très déjà, vous voyez, dans ce qui va annoncer le chaos. Par contre, dans les mélancolies, il y a un ralentissement, il y a une inhibition, il y a un tempo différent, mais non plus maîtrisé, c'est-à-dire la vitesse est lente, mais le tempo n'est pas maîtrisé, c'est-à-dire l'allure. Personnellement, je différencie tempo et vitesse. Bon, ce n'est pas le lieu ici de parler de ça. Le deuxième trait, enfin, de la psychose, et nous allons entrer dans le cœur du sujet, c'est la médiation. Aujourd'hui, on sait très bien que ce que nous appelons, enfin, des fous, des malades mentaux, peu importe, mais qui sont capables de création, je le dis tout de suite, Robert Schumann était maniaco-dépressif, Nicolas Destal et Wolff étaient des schizophrènes, Hölderlin et Artaud, on a dit, ou Strindberg étaient des véritables malades mentaux. Mais Foucault a eu comme ça une boutade de dire la folie ou l'absence d'œuvre. Et bon, il le regrettait après, il me l'a dit lui-même, et il le reprend d'ailleurs dans la dernière édition de Gallimard de l'histoire de la folie. Mais il n'a pas su, lui, différencier raison et déraison, et ça entraîne une certaine confusion dans notre travail de psychopathologie. Mais c'est donc la création d'artifices, la création de médiations. Et ces médiations seront perturbées chez Claude Lantier, aussi bien dans ses relations avec Christine que dans ses relations avec le petit Jacques, ce qui est extrêmement poignant. J'avoue que chaque fois que c'est la quatrième fois que je relis l'œuvre, je trouve ça extrêmement difficile à accepter. Mais enfin, Zola a du courage, il vient nous montrer jusqu'où on peut aller. De même, dans ces moments où il s'isole et où il ne peut pas fabriquer ses médiations. Donc, par conséquent, ma thèse est celle-là, c'est que Claude Lantier rate à la fois sa vie et sa peinture parce qu'il est maniaco-dépressif. Et il ne va pas se suicider du tout parce qu'il a raté. C'est le raptus suicidaire est quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Je sais que les journalistes nous disent « bon, c'est un chômeur ». Non, il y a derrière tout suicide quelque chose de beaucoup plus grave qu'on n'a pas su voir ou qu'on ne veut pas voir, mais qui est beaucoup plus important. Donc, ces indicateurs maniaques seront très importants et je crois qu'il faut les situer ici autour de ces scènes, n'est-ce pas, dans ce tableau qui nous est fait de Claude Lantier, où il regarde Paris, la Seine, la cité, et dans son imaginaire, il va faire le tableau de sa vie, ça va être extraordinaire, ça va être un tableau très 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 grand, énorme, tout est clair dans sa tête. Seulement, voilà, on ne peint pas avec des images dans sa tête. On peint avec des actes de peinture, comme on écrit. Et Sandoz le sait, lui, qu'est-ce que c'est qu'écrire. Il fait des actes d'écriture. Et son Claude Lantier, bien, il ne peut pas parvenir à ces objectivations fortes qui seront ses toiles. Et il va accoucher de quoi? De petits bouts de toile ou des toiles dont il n'est pas très content. Même la première qui réussit grâce à Christine et qui est exposée enfin au salon dit des refusés, puisque le roman se situe entre 1863 et 1876. Bien, il n'en sera pas content. Et là, c'est ce deuxième trait qui est très important, c'est la notion d'autosatisfaction, c'est la notion de mécontentement. Ça le mine, n'est-ce pas? Et c'est là où, d'une part, l'imaginaire qui va très vite, le mentisme, n'est-ce pas, cette espèce d'accélération d'image dans sa tête, où il est capable, à ces moments-là, dans un cinéma extrêmement accéléré, n'est-ce pas, de croire qu'il tient, n'est-ce pas, et le sujet, n'est-ce pas, et le sujet, et d'autre part, les formes des diverses esquisses qu'il va faire, eh bien, il ne pourra pas aboutir parce que les médiations sont insuffisantes. Il en ira de même avec Christine, lorsqu'ils seront placés en face l'un de l'autre. Il en ira de même avec le petit Jacques. Il en ira de même. Il n'y a guère qu'avec Sandoz. Mais pourquoi? Parce que Sandoz fonctionne, lui, comme un grand ami, une sorte de père, n'est-ce pas? Il le couvre, il a bien raison, puisque c'est à la fois l'ami, à la fois le double, à la fois son personnage central, n'est-ce pas? Il faut bien qu'il le soigne. Mais si vous remarquez, Claude est toujours en retrait, tout en ayant très très bon fond, n'est-ce pas? Il est très très aimé, du moins dans une période où on croit encore que ça va que ça va fleurir, n'est-ce pas? Bon, ça ne fleurira pas. Et la dernière série d'indicateurs, qui est quand même la plus fréquente, c'est on a décrit des états mixtes, n'est-ce pas? C'est-à-dire des mélanges dans lesquels il y a à la fois des indicateurs, des indices de symptômes de la série dépressive et des indices de symptômes de la série d'excitation euphorique, de cette sorte de mentisme très fort. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Avec un passage de plus en plus rapide, si vous le remarquez, au fur et à mesure qu'avance le livre, et c'est là où l'observation est très fine, d'un état à l'autre état, et toujours avec cette difficulté de créer. Mais ce qui va caractériser, que ce soit l'état mixte, que ce soit l'aspect maniaque, c'est la discontinuité, c'est le télescopage, c'est le sautillement, n'est-ce pas? Et ça va être cet aspect d'inachevé. Il faut s'arrêter un petit peu ici sur l'inachevé. Pensez au dernier tableau qu'il finit par bâtir, et où il dit, ça y est, c'est terminé, oui, voilà, il sort, il va aller au salon. Et Sandoz arrive, il dit, mais enfin, il n'est pas achevé. Ah, dit Christine, mais si, il est considéré comme terminé. Et tout à coup, Claude lui dit, oui, en effet, j'avais pas vu, voilà. Il y a comme des scotomisations, l'impossibilité de maîtriser le détail. Comme dirait Nietzsche, d'être bon voisin des choses les plus proches, n'est-ce pas? Et ça, il ne peut pas y parvenir. Zola, d'ailleurs, sera assez terrible, puisqu'il nous montre que Claude ne peut pas parvenir non plus. Il ne sait pas bien préparer sa toile lorsqu'il loue ce nouvel atelier rue Turlac, lorsqu'il dit « ça y est, je possède mon sujet, on va entamer le capital, fortune est faite ». Tout ça, c'est une phase maniaque tout à fait typique, n'est-ce pas? Une certaine, même à la limite, un peu mégalomaniaque, si l'on veut, n'est-ce pas? Eh bien, il ne saura pas très bien tendre sa toile, bien utiliser les préparatifs de la toile. Il y aura même sur la technicité elle-même des médiations qui seront en faillite. Donc, ce tableau clinique me semble important. Et alors, il faudrait dire un mot, pourquoi je tiens à dire que c'est une folie quand même, parce que c'est vrai qu'il n'est pas dément, mais c'est vrai qu'il ne peut pas choisir. Claude est un homme, un personnage d'une sincérité totale, il s'engage pleinement dans ce qu'il fait, qu'il croit que ce qu'il va réussir ou qu'il croit qu'il ne va pas réussir, et il est aliéné, autrement dit, il manque de liberté, c'est le sens fort, n'est-ce pas? Et je crois que l'indicateur majeur de la folie, c'est cette difficulté de maîtriser le choix et de s'organiser, n'est-ce pas? Et précisément, Pierre Sandoz est là pour montrer en même temps que lui, il jouit d'un ordre un peu plus serré, un peu plus linéaire, un peu plus successif, une sorte d'organisation qui se suit, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces deux ordres qui ne sont pas pour moi un désordre, hein, c'est-à-dire que l'ordre chaotique est un ordre aussi, mais ce n'est pas pour moi un désordre, je les ferai fonctionner ensemble. Mais il est vrai que si les mélancolies sont marquées par l'ordre, ce n'est pas ce type de mélancolique-là, c'est une autre. Je l'ai décrit à propos de la conquête de Plassans pour François Mouret en 1874, où Zola avait trouvé le typus mélancolicus tel qu'il a été décrit beaucoup plus tard en 1961. Pardon. Enfin, bien, il faut dire un mot aussi de la notion d'inspiration. Est-ce qu'il y a une inspiration maniaque? Est-ce que Zola a eu raison de proposer ces aspects? Mais moi, je crois que oui, et je crois que ça le concernait aussi. Je crois qu'il avait, lorsqu'il faisait ses ébauches, ses plans, avant de passer à l'œuvre elle-même, certaines exagérations, une certaine ouvrise qui frisait le mauvais goût, qui était mélodramatique. Henri Mitterrand a su nous montrer tout cela en nous donnant des échantillons successifs dans l'ordre, Colette Becker-Hiding, les autres personnes qui se sont occupées de Zola aussi. Et ensuite, lui, il savait se purger, il savait épurer, il savait faire ce que Bachelard appellerait une psychanalyse, si l'on veut, des moyens intellectuels pour passer à l'œuvre. Mais hélas, Claude Lantier, lui, ne sait pas, il a des idées fortes, révolutionnaires, Et c'est précisément, évidemment, dans ces états d'exaltation, dans ces états de débordement, dans ces états d'oubris, que cela arrive. Je crois que je voudrais vous citer deux simples pensées de Zola lui-même, n'est-ce pas, que je trouve très fortes, qui sont dans ce livre, qui est une véritable mine. La pensée, le produit du corps entier, dit Zola à la page 161 de la Pléiade. Et encore, à la fin, ce qu'on apporte, lorsqu'on a la gloire d'apporter quelque chose, déforme ce qu'on apprend. Et il est évident que là, il fait allusion non seulement à la difficulté qu'il y a de faire accepter cette peinture, mais aussi à tous ces mimétismes, n'est-ce pas, d'imitation et de rivalité qui vont sans cesse s'exercer autour du groupe qui l'entoure, puisque, au fond, dans cette dernière séance du dernier jeudi que Claude et Christine, une fois mariés, vont passer chez Sandoz, l'auteur, Zola, a soin de séparer, de faire du groupe, un petit groupe de Mahoudeau, de Gagnère et de Jory. Puis, bon, il casse du sucre sur Claude Lantier, il le débine, et Zola montre très bien où peuvent amener les mimétismes de rivalité. Et en même temps, ici aussi, il faut signaler qu'il n'y a pas que des images picturales, c'est aussi des images acoustiques. Il les sépare pour les entendre, il entend une rumeur. Il y a aussi des relations de médiation à ces niveaux-là, n'est-ce pas? Il n'y a pas qu'au niveau de la peinture. Claude ira déjà dans le salon de refusé, il entendra un brouhaha autour de sa toile que le public ne comprend pas. Zola est très, très, très incisif, toujours dans sa fonction d'éducateur, de pédagogue, afin de montrer que le public peut être nocif pour un créateur. Mais je viens de citer cette pensée forte qui nous montre aussi qu'il ne peut pas, le public accepter ces formes nouvelles. Bon, voilà, ça c'est dans la première partie. La première partie, je vois que le temps file très vite. Il me reste encore 5-10 minutes. Non, bon, d'accord. Je voudrais aussi citer une pensée de Zola, enfin, qui est dans ce salon. Je dois cela à notre ami Jean-Pierre Leducadine, qui a eu la bonne idée de réunir tous ces textes autour de Manet et de les faire posséder d'une splendide introduction d'ailleurs, où Zola dit « J'ai plus de soucis de la vie que de l'art », n'est-ce pas ? Donc, s'il a plus de soucis de la vie que de l'art, peut-être que par art, ici, il entend davantage la peinture ou les arts plastiques, n'est-ce pas ? Que l'écriture proprement dite, n'est-ce pas ? Et il n'est pas du tout étonnant que les peintres, en définitive, dans ces romans, l'aient retenu beaucoup plus longtemps, enfin non pas seulement quantitativement, mais dans les centres d'intérêt, que la peinture elle-même. Bon, ce reproche lui a été fait d'une façon un peu trop grave, à mon avis, de ne pas saisir cette évolution de la peinture. Personnellement, je ne partage pas ces points de vue, je vais donner mes raisons. Bon, donc, la deuxième partie, je l'ai intitulée « L'œil écrit », voyez-vous, « Le figural », la peinture écrite dans l'écriture, une construction en abîme. Bon, alors, je vais essayer de résumer cette partie, hein, le temps qui me reste, pour donner les directives essentielles de ce que je crois être le travail soliste, ici. D'abord, il pose cette question, l'œuvre, qui est la création en image et la création en mots. Seulement, il faut faire attention de ne pas se laisser piéger dans ces termes élémentaires ou fragmentaires. Les images deviennent ou des actes de peinture, ou des actes poétiques, ou des actes de musique. Elles sont dans des actes. Et les mots, c'est pareil. Personne n'a un mot, un signe dans la tête. On fonctionne dans notre langage intérieur avec des phrases, avec des énonciations, n'est-ce pas ? Et le texte lui-même va s'imposer comme Bakhtin nous l'a montré après bien d'autres, mais enfin de manière peut-être un petit peu différente, dans une perspective aussi de mini-œuvre qui demande à fonctionner, n'est-ce pas ? À fonctionner dans des discours. Donc, acte de peinture, acte d'écriture, et non pas simplement image isolée, n'est-ce pas ? Je crois que Zola adhère à cela. Je voudrais encore ici citer Ignaz Meyerson dans l'étude qu'il fait sur les formes en peinture, étude qui va apparaître toujours dans cet ouvrage, donc « Formes, couleurs, mouvements dans les arts plastiques ». Il dit ceci. Le monde de la peinture est un monde des formes autonomes, régies selon des lois propres. La peinture part du monde visuel, du spectacle de la nature. Elle extrait de ce spectacle un certain nombre de données. Ces données, elle les organise à sa façon. Elle en fait une architecture, des architectures. Hein ? Il est très joli, là. Selon ces règles, règles plastiques fort différentes de celles du monde des choses. Déjà, la représentation mentale s'est écartée de la perception. Le monde des images mentales est tant par ses qualités que par sa composition et son mode d'enchaînement très différent du monde de la perception. Le monde des images peintes présente un troisième domaine, différent des deux premiers. Il est aussi fortement charpenté que le spectacle visuel, mais sa charpente est à lui. Donc, trois mondes, n'est-ce pas? Il y a le monde de la perception, nous savons depuis Merleau-Ponty, depuis Strauss, enfin que la perception est un acte aussi, est une construction qui engage l'être tout entier, que ensuite, les images mentales, mais qui sont de représentation, ceci est une métaphore, car bon, dans le cerveau, il n'y a que de la biochimie, seulement il y a des réseaux qui s'organisent et qui, à mon sens, suivant les sujets, parce que les typologies diffèrent, il ne faut pas, je le disais hier à propos de la première intervention de l'après-midi, enfin, on évoquait des images visuelles, je disais, bon, moi, quand je lis un test, ça évoque plutôt des images acoustiques, j'écoute les textes, parce que pendant 40 ans, j'ai écouté beaucoup de gens, et puis que j'écoute les textes philosophiques et poétiques, etc. Donc, ces représentations mentales, on a tendance aujourd'hui à les voir comme des réseaux qui sont ancrés, greffés sur le langage, n'est-ce pas? C'est quand même... Et enfin, là, alors, c'est une réalité, c'est le monde des images peintes, n'est-ce pas? Eh bien, je dis tout de suite que si la vision plastique est différente de la vision ordinaire, que si la vision plastique, la vision artistique, va ajouter un plus-être, n'est-ce pas, à celle de la vision, disons, du quotidien, eh bien, chez Zola, dans ce roman, tout se passe dans le texte, n'est-ce pas? Tout se passe dans le texte. Et les images, quelles qu'elles soient, vont surgir du texte. Je crois que c'est là l'originalité très forte de ce roman, enfin, pas uniquement de ce roman, c'est dans tous, mais ici un peu plus, puisqu'il a voulu affronter, non pas raconter les histoires de tel ou tel peintre, bien sûr qu'il était extrêmement miné par cette sorte de difficultés, enfin, c'est ce que j'appelle les mimétismes d'imitation, les mimétismes des rivalités, lui qui rêvait d'un paradis, enfin, qu'il nous donnera après dans ses évangiles. Mais il est certain que c'est dans l'écriture qu'il nous faut trouver des réponses. Bon, alors ici, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure pour compléter, enfin que ces médiations dont Claude Lantier ne vont pas lui permettre d'atteindre trois possibilités, autrement dit le savoir-faire et de le maîtriser, le savoir-pouvoir et surtout le savoir-être. Car non seulement il rate évidemment sa peinture dans le roman, mais en plus il rate aussi cette fonction capitale dans l'humain qui est l'amour, n'est-ce pas, qui est l'amour. Et il faut se rappeler, enfin, le dernier chapitre, n'est-ce pas, ce moment où il va, avec à la lumière de la bougie, essayer de revoir son tableau. Ça y est, nous savons qu'après ce fameux jeudi, il est parti, n'est-ce pas, et que Christine lui dit « attention », et il a les mauvais yeux. Il ne veut pas dire de lésion de l'œil, mais un regard, ce fameux regard fixe, elle va le suivre pour regarder ce pont de Saint-Père. Et puis, bon, toujours dans cette obsession, cette obstination, cette espèce d'acharnement, n'est-ce pas, des actes qu'il ne peut pas choisir, et il va se mettre à peine. Christine se réveille, va le chercher et lui fait tout un discours splendide, bien soigné, n'est-ce pas, sur l'amour et l'importance de la vie, de l'amour, s'il ne peut pas peindre. Et alors, il lui dira, d'une façon très précise, « Bon, alors, donne-moi une joie que je ne connais pas. » Il a oublié sans doute celle de Bencourt, donne-moi un bonheur que je ne peux pas atteindre, n'est-ce pas? Et il va la rejoindre, et ils vont faire l'amour, enfin, du moins, se suggérer ainsi. Christine s'endort, et Claude non. Et Claude entend à ce moment-là, manque encore des images acoustiques, une voix qui lui vient de l'autre côté de l'atelier, qui est une véritable hallucination, ici une hallucination authentique, n'est-ce pas? Qui l'appelle. Bon, il ne l'écoute pas. Une deuxième fois, nous dit Zola, il y a une deuxième hallucination, et puis il y aura une troisième hallucination, et cette hallucination, c'est la bonne, il se lève, il va, le roman s'arrête là pour ce qui est son histoire, puisqu'on le trouvera pendu, n'est-ce pas? Et ce raptus suicidaire a donc été pressenti à la fois par Sandoz, à la fois par Christine. Sandoz disait dans ce nom, il était très animé, il parlait beaucoup, vous voyez, il s'est intéressé, bon, on croirait qu'il y avait une inversion de l'humeur. On oublie, hélas, que dans ces écarts-là, c'est dans les queues de mélancolie, c'est lorsqu'on croit que les choses vont bien, qu'elles ne vont pas bien. Mais enfin, Christine, qui était unie à lui par des liens beaucoup plus forts et qui avait comme une espèce d'intuition, enfin, de cet amour, eh bien, elle ne sera pas dupe. Et en effet, l'issue sera fatale. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement entre Zola, les peintres, la peinture, d'abord, il faut situer ça, et dater un peu pour ne pas lui faire des reproches. D'abord, des limites. Il est évident que Zola utilise comme des étiquettes incantatoires la nature, le réel, la vie. Et lui, qu'est-ce qu'il est? C'est un homo artifex, comme dirait Maurice Pradine. Il ne fait que de l'artifice. Son art, c'est de transformer en formes écrites, en tissu d'écriture, une nature qui est une nature autre, comme Meyerson nous le disait tout à l'heure, un réel qui est un réel autre, et bon, c'est vrai qu'il y a une vie de forme, nous a dit Faucillon, mais enfin, c'est vrai que cette vie est métaphorique. La vie, ça concerne la biologie, et l'art, ce n'est pas la biologie. Bon, que ce soit le roman, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit la poésie. Donc là, il y aura toute cette phase première, enfin, je suis pas très qualifié pour faire pour voir, mais nous savons tous qu'il y a cette phase des années 60, des années 70, et qu'il faut y penser de très près, n'est-ce pas? L'évolution des arts plastiques entre les années 1850 et 1900, les 100 dernières années, de la musique, va être très en avance, va aller très vite en créant des étapes nouvelles et beaucoup plus rapidement, à mon sens, que l'évolution du roman, que l'évolution même de la poésie et éventuellement, n'est-ce pas? Nous assistons là, et quelqu'un comme Pierre Francastel nous le fait sentir dans de nombreux travaux qu'il a dédiés aux impressionnistes et à toute cette période, et en particulier dans un article fameux paru dans un numéro du journal de psychologie que Meyerson avait fabriqué, Forme de l'art, forme de l'esprit, je vous conseille ces numéros absolument. Et là, Pierre Francastel, dans un très long article, 47 pages, c'est effrayant que Meyerson ait accepté un article si long, mais enfin, ça en valait la peine. Francastel nous montre cette déconstruction de l'espace par les impressionnistes, mais à partir de 1880 surtout, n'est-ce pas? Donc, si Zola est sensible à Courbet, si Zola est très sensible à Manet, n'est-ce pas? Tout en mettant en doute après aussi la main de Manet. On a dit, c'est une erreur de traduction, mais pas seulement pour deux raisons. Encore des limites. Il faut trouver ces limites dans lesquelles butait Zola. Zola, il bute sur les limites du jeu, n'est-ce pas? Il ne sait pas jouer. On ne joue pas dans ses romans. Même ici, il fera par des personnages secondaires, Jory, Mathilde, Fagerolles, par exemple, Irma Becco, des gens qui sont des malins, qui réussissent, mais il nous les montre en les critiquant, en ne les approuvant pas, tout en les montrant quand même de façon à avoir deux vues sur Claude Lantier qui seront différentes que celles que lui peut nous donner, que celles qu'il prête à Claude, celles qu'il prête à Christine, et introduire par là une sorte de jeu en même temps. Mais il est évident que cette absence, lui qui est Zola, un travailleur acharné, qui a la rigueur, eh bien, il acceptera très mal ces gestes de plus en plus rapides, cette gestique de peintre. Il dira, c'est des ébauches, ce sont des esquisses, ça ne va pas, c'est le fragment, n'est-ce pas? Et pourtant, je le dirai, enfin, je le dis tout de suite, l'écriture de Zola est toujours fragmentaire. Il y a une véritable schisation. Philippe Hamon a bien montré cela, moi-même aussi dans une étude parue dans l'évolution psychiatrique. Mais pour reprendre ce que nous disait Melo tout à l'heure, je crois aussi qu'un deuxième aspect, il faut différencier les tests programmatiques, n'est-ce pas, c'est-à-dire les thèses que Zola aimait, et d'autre part son œuvre de romancier, qui est une œuvre d'artiste, n'est-ce pas? Il n'y a que dans le roman achevé, fini, et donné à l'éditeur, que nous pouvons dire qu'est-ce qu'il y a comme art ou pas, n'est-ce pas? Cette dimension esthétique, à la fois de l'œuvre et à la fois des hommes, ne peut être saisie que là, et non pas dans toutes les étapes intermédiaires seulement, aussi importantes soient-elles. Ces limites vont se situer encore, d'ailleurs il refuse de les appeler impressionnistes, vous le savez, il les appelle les actualistes, mais c'est la tâche, c'est les variations d'épaisseur des peintures. Il est agacé par ces reflets, par le fait que dans les salons qui se succédaient, la peinture blonde, la peinture claire va être banalisée. N'importe qui. Bon, je ne sais pas où en est la peinture actuellement, à l'époque actuelle. Je connais un peu ce qui se passe autour de la musique contemporaine. Eh bien, on a l'impression qu'on actualise là et que c'est toujours très, très actuel, avec cette difficulté d'accepter la forme nouvelle. Bien sûr, il a bien accepté le sujet. Ça lui faisait plaisir qu'on aille peindre dans la nature. Et il appellera ça l'école de plein air, la lumière, les jeux de l'ombre de la lumière. Mais après, tout ce qui viendra après, il ne l'accepte pas très bien. Mais est-ce qu'il le connaît seulement? Et voilà la question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier tout de même, n'est-ce pas, que Paul Cézanne, les cinq séries de joueurs de cartes, ça date 1891-92. Ces romans étaient écrits en 1885. faut pas oublier que les 42 toiles de Claude Monet sur la cathédrale de Rouen datent de la même période, 1891-92, qu'en 1883, Monet dit « j'ai de plus en plus mal à me satisfaire », qu'à la même période, dira Renoir plus tard à Vollard, il s'est passé comme une cassure dans mon œuvre. Donc, par conséquent, cette brouille, ce métisme de rivalité des peintres, c'est qu'on peut saisir comme difficulté dans la peinture, ce n'est pas une crise inventée par Émile Zola, elle existe bel et bien à cette période, seulement cette crise, Franck Castel aura un mot, il a cru se tromper, il avait simplement anticipé, n'est-ce pas? En réalité, tous ces peintres étaient en véritable autocréation. Et alors, ce qui fait qu'au fond, cette peinture écrite, comme je dis, élaborée en abîme dans l'écriture narrative, eh bien, elle ne va pas nous satisfaire, elle ne va pas pouvoir reproduire toutes les subtilités, enfin, du style, des formes, de tout ce jeu, des tons, enfin, de tout ce que les impressionnistes inventent. Je conclue. Alors, la peinture écrite, bon, je l'ai dit, donc pour l'écriture elle-même, je serai très très bref, j'ai déjà produit quelques tests là-dessus, j'insisterai un petit peu sur les effets de neutre, n'est-ce pas, de cette écriture. On a dit une écriture impressionniste, une écriture analytique tout de même, n'est-ce pas, comme la peinture elle-même l'est à ces moments-là, et une écriture qui, comme je l'ai dit, essaie de tenir compte de ces fragments, de ces esquisses, de ces détails, mais évidemment en brossant, et je dis moi que les plus belles toiles de Claude, c'est Zola qui les a peintes, enfin je veux dire décrites, n'est-ce pas, lorsqu'il nous décrit ces énormes paysages qu'il voit dans son imaginaire, mais qu'il ne peut pas réaliser dans son œuvre. Un petit mot pour finir sur ce que j'appelle le figural. Bon, j'ai parlé dans ces premiers textes, enfin sur l'œuvre de 86, d'une forme, d'aboutir à une forme, ou de faire naître une forme, de laisser émerger une forme, qui capture le reste, n'est-ce pas? Il est évident que cette discontinuité maniaque, que cet ordre chaotique, ne permet pas cette forme majeure qui va s'imposer. Alors, j'entends par là le figural, c'est Lyotard qui en parle figure-discours, enfin, au discours-figure. Delacroix, Henri, parlera de figurabilité. Il cite aussi, les travaux, c'est Pradine qui les cite, Léon Binet sur la créativité ultérieure qui parlait du morceau. J'ai été très, très intéressé par la position de Gérard Genette autour de la notion de récit, dans le livre Figure 3, enfin, d'ailleurs, ça s'appelle Discours du récit. Donc, Delacroix va jusqu'à dire... La création est une floraison. La forme est ou il n'y est pas. Et j'ai l'impression que Zola, lui, dans son écriture, ne fonctionnait pas comme ça. Il accumulait, il notait, il observait. Bon, est-ce que c'est un réalisme d'observation ou de conception? Je trancherai pas. Je crois que c'est les deux, n'est-ce pas, comme je cite Alain Delattre. Mais quelque part, il y a ces notions de type, de Nietzsche, ou de style, de Buffon, enfin quelque chose qui centre virtuellement, n'est-ce pas, soit une œuvre écrite, soit une œuvre peinte, soit une œuvre musicale, et c'est là, je crois, que cette floraison ne peut pas se faire. Bon, alors en conclusion, l'œuvre, roman, est une œuvre ouverte. C'est ça qu'il faut retenir, n'est-ce pas? Elle est autonome. Elle traite certes d'une peinture, d'un personnage, mais qui sont écrits dans le roman, qui émergent du roman, n'est-ce pas? Il ne faut à aucun moment traiter ce roman comme un document esthétique, comme une histoire de la peinture, comme une histoire de peintre. Je crois que là, on rate à ces moments-là la richesse, que je ne fais qu'esquiser, de tout ce qu'il y a dans ce roman. Je vous remercie.
Je remercie aussi Adolfo Fernandez Zoila de ce passionnant exposé qu'on aurait aimé plus long, mais il y a les impératifs que je vais être chargé de faire respecter. Mais vraiment, c'était passionnant et ça montre encore une fois la modernité de ces problèmes, puisque vous avez tenu un discours tout à fait contemporain à partir de Zola. Alors, je pense qu'on peut poser quelques questions à M. Fernandez Zoila. Avant que M. Drost ne vienne faire l'exposé, je vais demander à M. Drost de succéder immédiatement parce qu'Antoinette Erard, pour des raisons que je vous dirai plus tard, parlera ensuite. Donc M. Drost parlera maintenant, mais en attendant quelques questions sans doute à propos de cet exposé. vous plaît.
Ah oui. Oui, oui, c'est vrai, j'aurais dû faire allusion à ce titre qui n'a pas varié. Oui, je voulais dire, enfin, c'est un peu ce que j'ai dit sans le nommer, c'était ce système à double boucle, enfin une double boucle, dans une boucle, on la tient donc dans cette peinture écrite en abîme dans l'écriture, l'autre dans cette écriture analytique, n'est-ce pas, qui essaie de nous closer les tableaux, voilà, hein, et qui, évidemment, chez l'écrivain Zola en particulier, va aboutir à cette notion de figurale, mais qui est comme une construction, comme quelque chose qu'on trouve au bout, comme un aboutissement, n'est-ce pas? Tandis que chez le peintre, eh bien non, il semble que chez le peintre, là je serais assez d'accord avec Henri Delacroix, j'ai fréquenté quelques peintres, discuté avec eux aussi, depuis de longues années, et je crois que vraiment, ça y est ou ça n'y est pas. Et d'ailleurs, Zola le sait et le sent, puisqu'à chaque fois, il lui fait dire à Claude, ça y est, j'ai mon sujet, j'ai la manière de le peindre, il va même solliciter, bon, je passe sur tous les détails de Christine modèle, Christine jalouse, la femme peinte, les mimétismes aussi qui l'amènent à trouver que chaque fois il fait un beau morceau, tandis qu'au début il ne le pense pas, à la fin il lui dira que c'est affreux. Mais c'est là, ce système peinture-écriture, c'est un système de peinture écrite dans l'écriture, une construction à l'abîme en quelque sorte, mais qui, à mon sens, ne tient pas compte, enfin, des caractéristiques propres de la sensorialité, du sentir, du sensualisme, enfin, là, il aurait fallu aussi dire beaucoup de choses. Mais bon, j'ai donné le privilège à l'observation de Claude Lantier, parce qu'il m'a semblé que c'était le plus beau tableau, n'est-ce pas, qu'il nous faisait, et que c'est aussi un tableau peint, mais qui, là, il est plus proche du réel que les autres, enfin, à mon sens. Voilà.
Oui, madame.
Je me demande, si la psychopathologie dont vous avez parlé n'est pas un peu présentée et construite en fonction de la condamnation, ou disons, de la critique finale faite par Sandro Zola du symbolisme, en fait.
Oui, vous avez raison de poser cette question. C'est vrai, vous avez tout à fait raison que Zola corrige enfin ces aspects symboliques, idylliques, etc. Mais bon, je ne crois pas, j'ai été très émerveillé, si vous voulez, qu'il ait habillé cette névrose antiguillomée initiale, enfin présentée de cette forme maniaco-dépressive, parce qu'autrement, c'est ce que j'ai essayé de dire très brièvement à propos de l'inspiration, de l'exaltation, enfin de toutes ces phases, sinon la créativité n'est pas possible, n'est-ce pas? Si le créateur ne croit pas tenir, il ne pourra pas se mettre à l'œuvre. Seulement, bon, après, ça ne fonctionne plus. Et il y a en effet un des aspects pour lesquels il ne fonctionne plus, c'est aussi que Claude a un arrière-pays religieux, un arrière-pays idyllique, un arrière-pays symbolique qui évoque un peu Gustave Moreau. Là, je crois qu'il y a quelques réminiscences de Cézanne. Maurice Renal nous dit bien que Émile Zola a contribué à supprimer ces élans, enfin, chez Paul Cézanne, mais Cézanne jeune, il faut dater aussi, il faut voir un peu que Cézanne est devenu Cézanne après 1880, après 1890, surtout, n'est-ce pas, et que lui-même ne le savait pas, Enfin, je veux dire Paul Cézanne, n'est-ce pas, voilà. Donc, c'est possible, en effet, que ces aspects symboliques aient travaillé cela et qu'ils soient liés à cette sorte d'exaltation, une sorte d'accélération. Mais enfin, ce qui m'a semblé plus important, si vous voulez, pour revenir sur cette notion de chaos, de discontinuité ou de rupture, c'est la précipitation, n'est-ce pas? C'est cette vitesse énorme qui va faire que des nuits successives, il va aller voir. Et puis, bon, au moment de l'acte de peindre, bien, ça ne peut pas aller à la même vitesse. Il faut maîtriser le tempo, n'est-ce pas? Et comme pour l'écrire, d'ailleurs. Hein. Voilà.
Merci. Je vais te demander à monsieur.
Zola est un peintre, n'est-ce pas, dans ses romans? Eh bien, non! Il faut en finir avec cette métaphore qui est complètement fausse, qui ne mène à rien. Zola n'est pas un peintre. Zola est un écrivain. Quel grand écrivain! Il est un photographe, il est un créateur d'images. quand il est photographe, on en parlera demain. Il n'a jamais écrit sur la photographie. C'est différent. Il crée des images, des vraies images visuelles matérielles par la photo. Et puis que quand il écrit en romancier, en critique d'art. Et à ce moment-là, il est écrivain. C'est un visuel, oui. Mais être visuel et être peintre, ce n'est pas la même chose. Ce visuel écrit, ce visuel photographie, il n'est pas peintre. Il parle de la peinture fictive, de la peinture qu'il invente dans l'œuvre, bien entendu. Mais c'est une peinture, c'est une image intérieure, c'est pas une peinture, c'est pas un objet peinture. Et quand il a parlé de l'objet peinture, c'est dans son activité de critique d'art, et c'est là qu'on voit les vraies difficultés. Comment passer de, comment écrire de cette, écrire une image qui est extérieure, qui existe en dehors de l'écrivain? Comment le critique d'art va-t-il supporter ce face-à-face avec un objet précis qui est la peinture, essayer de le comprendre et d'en rendre compte avec des mots? C'est imbattable, hein, c'est absolument imbattable. Mais ils ont tous essayé, et ce que je vais essayer de voir tout à l'heure, c'est comment il s'y est pris et ce qu'il a réussi plus ou moins bien que les autres. Mais il reste un écrivain et il n'est pas un peintre. J'ai peut-être un ton un peu véhément. D'abord, c'est parce que j'essaye de me réveiller. Et puis, parce qu'il y a des années que ça bouillonne dans ma tête et que Zola peintre, ben, je ne supporte plus.
Je crois que votre intervention appuie tout à fait ce que les distinctions extrêmement claires et subtiles que M. Fernandez Zola... Enfin, du moins, c'est comme ça que je les ai entendues.
Absolument.
Vous avez bien fait précisément cette distinction que vous venez confirmer.
Je vous remercie tout particulièrement de dire cela, parce que bon, je n'ai pas eu le temps de développer, vous le trouverez dans mon test, toute une dissertation sur la vision et la visualité. Mais j'ai bien dit, en effet, une écriture peinte, et j'ai dit bien que tout émerge du texte, n'est-ce pas? Et je suis assez, enfin un peu réticent même sur les images, n'est-ce pas, sur la fertilité des images en dehors de l'œuvre. Et c'est vrai que, alors j'ai dit ça, en effet, que j'ai cité la position de Philippe Hamon qui parle d'une écriture impressionniste, mais dans ce sens qu'elle est analytique, si vous voulez, qui va favoriser le détail, il va faire émerger, n'est-ce pas, l'observation. Je ne trancherai pas si c'est la conception ou l'observation. Et surtout, j'ai utilisé le mot toile peinte, je verrai, j'ai dit que c'était Zola qui les avait écrites, mais qui les avait peintes, mais enfin dans le sens métaphorique totalement, puisque évidemment cette peinture, elle est toujours écrite. Hein, que j'ai dit que ça ne, à moi du moins ça ne me donnait pas satisfaction du tout pour la peinture, y compris peut-être dans ces salons, mais enfin là c'est une autre histoire.
Bien, alors maintenant pour ne pas quand même trop perdre de temps, nous allons passer à l'exposé de Monsieur Drost.